Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous une très joyeuse fête des trompettes. Cette fête annuelle de l'Éternel souligne la grande promesse du second avènement de Jésus-Christ en tant que roi des rois. Cette fête nous met en garde à être toujours prêts, car le jour s'approche. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul insiste sur le côté mystérieux et le côté miraculeux de ce qui est prévu pour les membres de l'Église de Dieu au retour de Jésus-Christ. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Paul écrit ceci. « Voici, je vous dis un mystère. » Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Alors le peuple de Dieu attend ce grand changement qu'aura lieu quand Jésus reviendra. Afin de recevoir le don du salut lors de son retour, nous redoublons nos efforts aujourd'hui de marcher dans ses voies, de garder ses commandements, même si le monde autour de nous ne connaît pas Dieu ni sa volonté. Nous nous comportons de moins en moins comme le monde qui nous entoure, ce monde de chaos, de guerre, de la violence, de la méchanceté, et nous vivons dans un monde qui n'a pas d'espoir, et ça se voit de plus en plus avec l'augmentation des cas de dépression et de suicide et d'autres indicateurs qui crient fort que le système du monde d'aujourd'hui a fort besoin d'être remplacé par le règne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous considérons ce jour, cette fête des trompettes, nous considérons l'avenir, et c'est dans l'avenir que nous mettons notre espoir. Aujourd'hui est un jour qui nous aide à renouveler l'espoir, à approfondir notre foi en Dieu et dans ses promesses. Il tiendra ses promesses, et l'une des promesses les plus importantes, c'est la promesse du retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous considérons une époque à venir quand la rébellion des hommes sera écrasée par un coup aussi frappant qu'il semblera comme le tonnerre. Nous nous réjouissons aujourd'hui de ce qui viendra après cette destruction, un âge de la paix. Jusqu'à présent, l'Éternel Dieu prépare ses prémices. La fête de la Pentecôte nous rappelle du principe d'une petite récolte qui est semée et qui porte du fruit avec le Saint-Esprit. Et la fête des trompettes, par contre, représente un pont ou un point de basculement vers le futur, vers l'avenir, en particulier aux yeux de ceux qui sont aujourd'hui en préparation pour la récolte des prémices. Imaginons-nous le moment quand, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Si nous arrivons à l'imaginer, alors nous devrions imaginer aussi d'entendre le retentissement d'une trompette. Ce grand moment dans le plan du salut arrivera après l'ouverture des sept sceaux de l'Apocalypse. La fête des trompettes nous rappelle du fait que Dieu interviendra avec des signes et des miracles qui vont secourir le monde entier. Nous ne devrions pas ignorer les événements prophétisés. Nous avons besoin de considérer cet avertissement aussi. Nous avons besoin d'apprendre à craindre l'Éternel. Dans le psaume 111 et le verset 10, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Et dans l'avenir, nous allons voir Jésus-Christ dans sa gloire. est le peuple de Dieu, est souvent et depuis toujours est très souvent opprimé, mais ce jour là, qui est représenté par la fête des trompettes, c'est un jour de délivrance de cette oppression. Et par contre, même si on est opprimé, Dieu ne cesse de nous rappeler dans sa parole qu'il est encore avec nous en tout temps en esprit. Lors de sa souffrance jusqu'à la mort, Jésus-Christ a pensé aux besoins de ses disciples d'une manière très spéciale. Il leur disait qu'il fallait attendre encore un peu de temps. Même si son rôle n'était pas d'établir le royaume de Dieu il y a 2000 ans, Jésus-Christ a confirmé à ses disciples que le royaume viendra un jour, et ici-bas. S'il vous plaît de vous reporter avec moi au livre de Daniel. Le prophète Daniel et ses contemporains ont vécu sous la force oppressive de l'Empire babylonien. Il a vu, Daniel, avec ses propres yeux, la puissance du royaume de Babylone. Pourtant, Dieu a révélé à Daniel une vérité étonnante qui résonne avec nous tous aujourd'hui, surtout lorsque nous célébrons la fête des trompettes. Daniel chapitre 2, Daniel 2, et le verset 44. Daniel chapitre 2. Et le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel ici parle de l'intervention directe de Dieu pour son peuple. Toute oppression du peuple de Dieu prendra fin lorsque cette prophétie sera accomplie. Mais même s'ils n'ont pas conscience aujourd'hui, cette promesse est pour toutes les nations et tout le monde entier. Un peu plus loin dans le livre de Daniel, nous avons Daniel chapitre 7 et le verset 14. Daniel 7 et le verset 14, où il est écrit ceci. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc encore une fois, nous avons la certitude que ce royaume à venir, le règne de Jésus-Christ, ne sera jamais détruit. Il n'y a aucune chance qu'un autre royaume détruise ce royaume-là. Donc le monde est si interconnecté aujourd'hui qu'il pourrait peut-être être difficile pour nous d'apprécier la nature particulière de cette promesse pour toutes les nations, pour toutes les langues. Ceux qui proclament que le royaume est déjà venu sur la terre et c'est dans notre cœur, alors ils ont du mal à expliquer ce verset. Car si le royaume est déjà venu, pourquoi le monde ne changera pas? Pourquoi le monde n'est pas encore un monde différent? Si la première venue de Jésus-Christ avait accompli cette prophétie, comment pourrions-nous apprécier qu'il soit mort pour nous? Comment les païens auraient-ils été amenés dans le troupeau? Comment pourrions-nous apprécier l'importance du don de la vie éternelle? Comment pourrions-nous apprécier que tous les royaumes de ce monde soient soumis à Christ? C'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une expression populaire qui dit « La mauvaise nouvelle est que rien ne dure éternellement. La bonne nouvelle est que rien ne dure éternellement. » Même si ce type de raisonnement peut nous aider à apprécier les joies de la vie et à endurer les difficultés de la vie, enfin, ce n'est pas vrai, parce que nous avons un royaume qui durera éternellement. Encore dans le livre de Daniel, mais quelques versets plus loin, le prophète Daniel est inspiré pour écrire au sujet de l'éternité, justement. En fait, le mot est employé 3 fois dans un même et seul verset. C'est Daniel chapitre 7 et le verset 18. « Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. » Donc, 3 fois le même mot ici. Toujours, pour toujours, pour toujours. Alors maintenant, nous avons une idée plus développée de ce qui est à venir et la stabilité du règne de Jésus-Christ. Non seulement les royaumes du monde seront soumis ou détruits complètement, non seulement les gens de toutes les nations et de toutes les langues serviront Dieu, non seulement le règne de Dieu durera éternellement, mais les saints du plus haut recevront et posséderont le royaume pour toujours. Le verset 27 nous en dit plus sur cette transition de pouvoir. Cette transition de pouvoir. Et cela fait partie de l'héritage qui est mentionné plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Lisons le verset 7 de Daniel chapitre 7. Excusez-moi, le verset 27 de Daniel chapitre 7. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est très puissant comme héritage, n'est-ce pas? C'est un héritage magnifique. Considérons maintenant le psaume 2. Psaume 2. Et le verset 7 à 10, psaume 2, verset 7 à 10, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier, et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Ceci, le deuxième psaume ici, parle aussi d'un héritage qui sera donné. Donc avant de recevoir la domination, les rois de ce monde mentionnés au psaume auront, bien sûr, de plus en plus de pouvoir. Les nations, ils auront un pouvoir, et les nations, ces rois d'aujourd'hui, seront en rébellion contre le Très-Haut au retour de Jésus-Christ. Mais ils seront abaissés un jour quand même. Et dans la prophétie du Mont des Oliviers, Jésus-Christ nous raconte la réaction de toutes les nations à son retour. Considérons Matthieu chapitre 24, la prophétie du Mont des Oliviers, Matthieu chapitre 24, à partir du verset 2. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus-Christ parlait à ce moment du temple à Jérusalem. Mais dans un sens, il parlait aussi du fait qu'un jour, il aurait pu parler de la même façon, du fait qu'un jour, les nations mêmes seront abaissées. C'est sûr que ceci est prophétique, pierre sur pierre, pierre qui ne soit renversée. Mais en même temps, ça nous fait penser au fait que Dieu est capable de tout raser pour recommencer et pour installer le royaume de Dieu dans le millénaire. Donc, s'isolant au mont des Oliviers adjacent, en retrait de la foule, les disciples maintenant demandèrent à Jésus, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Donc, eux, ils s'intéressaient à ces choses, tout comme nous. Nous nous intéressons également au retour de Jésus-Christ et à tous les événements qui précèdent le retour de Jésus-Christ. Nous sommes toujours intéressés parce que nous veillons, nous prions, et nous sommes intéressés par les choses qui se passent dans le monde. Et puis, ce que nous avons ici ensuite, dans les versets qui suivent, dans Matthieu 24, c'est la réponse à cette question, en fait. Et en fait, c'est Jésus lui-même qui discute les choses à venir. Les prophéties bibliques ont souvent des accomplissements doubles ou multiples. Parfois, il y a même un accomplissement initial qui préfigure l'accomplissement principal. C'est le cas de la prophétie du mont des Oliviers. Il y a eu quelques prophéties ici qui sont déjà accomplies dans au moins un environnement, un champ réduit. Et maintenant, on attend l'accomplissement total. Donc, quand Jésus parle, par exemple, du signe du Fils de l'homme, il est sujet de son deuxième avènement. Considérons Matthieu 24 et le verset 30. Matthieu 24 et le verset 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Le moment en question ici est également mentionné dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Nous allons simplement y faire référence pour l'instant. Par exemple, Apocalypse 1 et le verset 7, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Et nous nous souvenons du fait qu'au début du livre des Actes, on a dit que Jésus reviendrait dans la même façon qu'il est parti, c'est dans les nuées. Donc Dieu attend à ce que son peuple soit toujours prêt pour ce jour, pour les événements qui précèdent même ce jour, toujours prêt pour cet avenir. Et puis nous voyons dans Matthieu 24 et le verset 44 une autre citation intéressante à propos de notre préparation. Parce qu'il y a quand même un but de comprendre toutes ces choses. Dieu a envie de nous ouvrir l'esprit, de nous ouvrir les yeux pour comprendre et pour qu'on puisse agir sur cette connaissance. Ce n'est pas juste pour que nous soyons très intelligents, des intellectuels, c'est parce que Dieu a envie de nous préparer. Il a envie de nous conforter aussi et de nous préparer pour le temps de la fin. Et donc, Matthieu 24 et le verset 44, un peu plus loin. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. C'est intéressant que même ceux qui sont tellement bénis de connaître Dieu, même nous, les membres de l'Église de Dieu, ce n'est pas à nous de connaître le timing, le moment qu'il viendra. C'est réservé. C'est Dieu qui attend à ce que son peuple soit toujours prêt. Et nous avons un article, par contre, en parlant de ces événements qui précèdent le retour de Jésus-Christ et le fait que nous veillons. Et nous avons un article de la Revue Discernée qui nous a rappelé de la rapidité avec laquelle les prophéties sont capables de s'accomplir. Et si vous vous souvenez, dans l'année 2020, en particulier au mois de mars et les mois qui suivaient. Alors, nous avons eu de gros changements dans le monde entier quand on a réagi au virus qui s'appelle le SARS-CoV-19 ou on dit simplement COVID-19. COVID-19. Et donc, nous avons beaucoup changé dans un peu de temps et ça nous rappelle que les choses peuvent changer rapidement. Mais dans cet article de la revue de Discerner, il est écrit ceci. Il se peut que ces événements annoncés par Jésus et les prophètes l'ayant succédé, vous soient bien connus. Mais cette pandémie de coronavirus est une grande leçon concernant un autre élément très important auquel vous devez réfléchir. C'est la rapidité effarante avec laquelle les prophéties peuvent s'accomplir. Donc, fin de citation. Nous avons peut-être tous des histoires, des souvenirs de la rapidité avec laquelle la vie quotidienne est changée en 2020. Chacun a vécu ça un peu différemment, mais plusieurs d'entre nous ont vécu de grands changements dans notre façon de vivre la vie quotidienne. Donc la fête des trompettes nous rappelle chaque année de la transition qui doit avoir lieu, avec pas mal d'événements qui vont se passer, mais si on les ajoute, si on fait, si on accumule tous les événements qui vont se passer, ceci consiste dans un changement ou une transition qui doit avoir lieu dans l'avenir. Après ce grand changement, nous avons le millénium qui est représenté par et préfiguré par la fête des tabernacles. En fait, la fête des tabernacles qui vient après la fête des trompettes et le jour des expiations nous donne tous l'occasion de goûter la paix et la joie qui s'installera après ce grand changement. Après toute cette destruction, après cette rébellion des rois de ce monde, jusqu'au retour de Jésus-Christ, et puis nous pouvons avoir un avant-goût du royaume de Dieu ici-bas. C'est ça que nous célébrons quand nous allons partir à la fête des tabernacles aussi. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur ces événements qui doivent se passer avant ce grand changement. Donc, ils font partie de cette transition nécessaire pour que le monde soit changé pour jamais. Donc, dans Matthieu 24, au verset 4, Jésus nous met en garde contre la tromperie à venir. De par toutes ces choses qu'il aurait pu mentionner en premier, qu'est-ce qu'il a choisi? Jésus leur répondit au verset 4, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Alors, avec tout ce qu'il aurait pu commencer, il a commencé avec un avertissement comme ça. Vis-à-vis de la séduction, vis-à-vis de la tromperie à venir. Sommes-nous alors, frères et sœurs, à risque d'être trompés ou séduits? Aujourd'hui, je voudrais vous suggérer trois choses importantes à développer pour se protéger des mensonges et des faux prophètes prophétisés pour le temps de la fin. Donc, trois choses, trois éléments à développer pour bien pour faire face plutôt à ce monde qui risque de nous séduire. Donc, frères et sœurs, afin de se préparer et de rester prêt pour le retour de Jésus-Christ, de participer à la première résurrection, nous devons d'abord développer une vision claire de Jésus-Christ et de comprendre qui il est, pour ne pas être trompé par les fausses idées, par les mensonges, par les faux prophètes de ce monde. Nous devons développer d'abord une vision claire de Jésus-Christ et de comprendre qui il est. Alors un jour, nous allons le voir tel qu'il est. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre qui il est et ce qu'il attend de nous pour ne pas être trompés par ce monde et par les forces derrière ce monde. Jésus-Christ est roi. Donc, quand nous pensons à Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, mais il est également roi, roi à venir bientôt. Bien que son règne ne soit pas pleinement en vigueur sur la terre en ce moment, il règne certainement sur son peuple. Nous le suivons, nous suivons son exemple, nous suivons sa volonté. Il est capable de nous inspirer, de nous influencer par l'esprit qu'il nous a donné. Et il est déjà, dans ce sens-là, il est notre roi. Nous obéissons à ses lois, à sa loi, à la loi de Dieu. Et donc, notre Seigneur et notre souverain sacrificateur sont déjà installés pour nous. Nous sommes déjà des ambassadeurs de ce royaume à venir. Le transfert de pouvoir, par contre, n'a pas encore eu lieu, comme il est illustré dans Apocalypse 11 et le verset 15. C'est un vrai exemple intéressant de cette transition, justement, qui doit arriver. C'est lors du septième ange qui sonne la trompette ici, Apocalypse 11 et le verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Donc, ça revient à ce que Daniel nous a expliqué aussi, c'est que son royaume est pour l'éternité. Et puis, les membres de l'Église de Dieu sont soumis déjà au Christ, notre roi, aujourd'hui. Donc, il est le roi qui siège maintenant aux cieux. Vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de son Église, il siège maintenant et nous reconnaissons son pouvoir dès maintenant. Il siège maintenant aux cieux, mais bien sûr que pas mal du monde, en fait, la grande majorité de ce monde n'a aucune idée de ce que Christ est en train de faire, ni de sa volonté pour eux. Donc, en même temps, il est le roi à venir. Donc, si nous avons notre vision claire du Christ, c'est non pas le fait qu'il est aux cieux, à la main droite du Père, mais il est aussi un roi à venir, notre roi des rois à venir, qui va régner ici-bas. Et c'est tellement important, frères et sœurs, pour nous de comprendre que le royaume de Dieu sera établi ici-bas dans le millénium, que le gouvernement de Jésus-Christ régnera à partir de Jérusalem, ici, sur la terre. Il porte déjà ce titre de roi, mais un jour, il imposera son autorité sur la terre. Un peu plus loin dans le livre d'Apocalypse, nous avons Apocalypse 19 et le verset 16, où il est écrit « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Donc c'est Apocalypse 19 et le verset 16. Pour compléter cette vision de Jésus-Christ et pour comprendre qui il est, on doit comprendre également la nature de Christ. On doit comprendre également que Christ n'a pas été créé. Il était et il est. Il est Dieu. Il est un avec le Père. Et celui qui est devenu Jésus-Christ, le Logos, était avec le Père éternellement. Lui-même a mis de côté sa position pour venir ici-bas sur terre sous la forme d'un homme. Et ceci pour nous sauver, pour nous donner accès au pardon de nos péchés. Donc, Hébreux chapitre 7 et le verset 24 nous explique « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. » Donc, encore, nous avons cette idée de l'éternité. Il demeure éternellement, il règne éternellement, il va intervenir pour nous et on fera partie de sa famille un jour pour l'éternité. Il nous a donné accès à cette vie éternelle, mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Donc aujourd'hui, nous comprenons qui il est par ces choses. Et nous avons bien l'exemple qui résume l'ensemble de sa nature dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Pour avoir une bonne idée de qui il est, pour comprendre qui il est, qui est venu nous sauver, qui est devenu le sacrifice qui a payé l'amende de nos péchés, nous comprenons Jésus-Christ étant la parole, étant le Logos. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais tout d'abord, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. C'est un verset très intéressant pour nous éclairer l'idée de qui il est et qu'est-ce qu'il a envie de nous donner comme leçon, de nous donner comme instruction. Bien, tout ce qui est coordonné avec le Père, il est un avec le Père, il est venu faire la volonté du Père, et nous faisons sa volonté. Donc, en faisant tout ça, nous pouvons être un avec Dieu également, dans le même accord, et tout à fait en train d'obéir à Dieu, en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Une autre chose que nous devons comprendre pour ne pas être trompés et pour se préparer justement aux derniers jours qui arrivent très bientôt. Alors, c'est une vision claire des saints de l'Éternel. Qui sont les saints? Qui sont les saints et quel est leur rôle pour l'avenir? Donc, frères et sœurs, afin d'être prêts pour le royaume de Dieu à venir, pour être parmi ceux dans la première résurrection, nous devons d'abord avoir une vision claire de ce qui sont les saints de Dieu. Donc, Apocalypse 20 nous donne une instruction là-dessus. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 4. C'est un verset que souvent nous allons revoir à la fête des tabernacles aussi. Apocalypse chapitre 20 et le verset 4. Jean écrit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc nous avons cette idée ici développée des saints de l'Éternel. Ceux qui, et puis on peut établir presque une liste ici, de personnes qui font partie de ce groupe des saints de l'Éternel. On peut également les décrire en disant qu'ils sont les appelés, les élus, les fidèles sont les saints. Et donc, nous pouvons être des saints aujourd'hui. Nous sommes élus. Est-ce que nous allons rester fidèles? L'idée, c'est que notre fidélité dure jusqu'à la fin, que nous persévérons jusqu'à la fin. Donc, les saints sont les élus et les élus doivent rester fidèles pour garder leur vocation et leur élection sûre. C'est en restant fidèles à Dieu. L'espoir dans la résurrection, nous avons l'espoir. Les saints de Dieu ont l'espoir. Nous croyons les promesses de Dieu. Nous suivons les commandements de Dieu. Nous obéissons aux commandements de Dieu. Et c'est parce que nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir pour traverser les mauvais moments de la vie, pour traverser les épreuves, pour surmonter les choses comme ça. Et les saints, ils gardent l'espoir pour cette résurrection. Donc, les saints de Dieu sont aujourd'hui également soumis à la loi de Dieu. Et nous avons l'espoir. C'est tout en obéissant Dieu du cœur. Ce n'est pas une obligation dans un sens, quelque chose, nous ne luttons pas contre cette obéissance, mais nous sommes d'accord, nous sommes soumis à Dieu et sa loi. Donc, il y a une chose intéressante que les saints ne sont pas, parce que des fois on peut définir ce que c'est quelque chose en disant les choses qu'il est. Mais dans ce cas-là, les saints aujourd'hui ne devraient pas être vénérés aujourd'hui. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour recevoir la gloire pendant cette vie, ou de vénérer ceux qui sont déjà morts, qui attendent dans le séjour des morts. Nous ne sommes pas aujourd'hui censés de vénérer des saints aujourd'hui, même s'il y a de bons exemples, il y a des exemples de fidélité, de la foi. Je pense à Hébreux, chapitre 11, par exemple, le chapitre de la foi. Mais même si dans ce chapitre de la foi, il y a plusieurs noms, ce n'est pas pour que nous commencions à les vénérer, à louer ou à prier ou à chercher à reconnaître ces saints dans un sens d'adoration. Et malheureusement, c'est le cas dans le monde aujourd'hui. Alors, nous avons un autre exemple ici de vis-à-vis des saints de l'Éternel. Considérons 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ceci est écrit pour un mot d'encouragement, vraiment, mais en même temps, nous avons un exemple frappant de qui sont les saints de l'Éternel. Verset 13, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Ce n'est pas écrit que ces gens sont vivants aux cieux avec Jésus. C'est que Dieu ramènera par Jésus lors de son retour, préfiguré par la fête des trompettes. Verset 15 ici. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc comment est-ce qu'ils peuvent être avec Jésus aux cieux s'ils doivent se ressusciter premièrement au retour de Jésus-Christ? Donc, si nous vénérons les saints, si les gens aujourd'hui prions les saints, ils prions à personne. Ils prions à quelqu'un qui est mort, qui n'entend rien. Donc, Jésus-Christ prépare une place pour ses saints, justement. Nous pouvons espérer d'être unis avec Christ et il prépare une place. Il dit... dans Jean chapitre 14, il nous indique qu'il a une mission. Et c'est intéressant parce que en même temps, il est en train de nous préparer pour cette place. Et il nous donne ces mots de confort pour dire qu'il est allé nous préparer une place. Mais en réalité, il est également en train de nous préparer pour ce qui va venir. Donc, Jean 14 et le verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc, nous avons cette vision claire de ce que Jésus-Christ est en train de faire et le fait qu'il ait prévu de venir pour justement pour faire la récolte de ses saints, de revenir pour ceux qui l'attendent. Ce sont les saints qui ont l'espérance dans son retour. Une troisième chose, c'est la vision claire de son royaume à venir. Donc, pour éviter d'être séduit, d'être distrait, d'être confus par le monde qui nous entoure et les mensonges qui circulent, nous devrions garder une vision claire de son royaume à venir. Il y a de l'injustice dans ce monde et une responsabilité du gouvernement est de rendre justice. Donc, son royaume à venir est un règne de justice. Il va régner avec la justice. Aujourd'hui, est-ce que la justice règne dans notre pays, dans notre là où vous vous trouvez, votre village, votre pays, votre secteur? Est-ce que la justice, est-ce qu'on peut dire que la justice règne dans ces endroits? Et même si ce n'est pas chez nous, est-ce que nous connaissons d'autres endroits où, quand nous considérons les informations qui circulent, nous sommes quand même convaincus que là, il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où de moins en moins la justice règne. Et c'est ça qui a besoin d'être restauré au retour de Jésus-Christ. C'est un gouvernement pour le monde entier qui va régner à partir de Jérusalem et la loi de Dieu sera connue partout dans le monde. Malheureusement, aujourd'hui, la corruption existe dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits. C'est même difficile d'aller dans un endroit aujourd'hui et de ne pas trouver une sorte de corruption. De nombreuses lois aujourd'hui ne sont pas appliquées ou souvent les lois sont appliquées trop tard ou avec partialité. La plupart des gens aujourd'hui pensent que si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez contourner les juges. Donc vous pouvez faire, entre guillemets, ce que vous voulez. Qu'est-ce que cela a fait de la confiance des gens dans le système de justice. Quel exemple est-ce que notre système, nos systèmes de justice, est-ce qu'ils sont en train de montrer aux gens aujourd'hui? L'exemple n'est pas bon. Et donc, le retour de Jésus-Christ est nécessaire. Le gouvernement, le royaume à venir est nécessaire pour changer ces choses, pour restaurer la justice dans le pays. Pour avoir une vision claire de ces choses, il faut comprendre que l'homme a essayé déjà plusieurs systèmes de gouvernement. Mais il n'y a aucun système de gouvernement qui sera capable de régner comme le règne de Jésus-Christ. Dans le gouvernement de Dieu, il y aura la justice et la miséricorde. Et la fête des trompettes nous rappelle d'une promesse que Jésus-Christ a faite à ses disciples. C'est qu'il reviendra et qu'il apportera avec lui son gouvernement. Et que son gouvernement sera établi à partir de Jérusalem et que ses saints régneront avec lui. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est très, très similaire à ce que nous découvrons dans les Écritures. Ce sont malheureusement des gens qui se font mal les uns les autres et les gens qui cherchent à survivre dans un monde instable. Et ils ont malheureusement pas la connaissance de quelque chose de meilleur. Mais l'homme doit apprendre que son système ne va pas fonctionner. Que ce soit la démocratie, que ce soit la grande société, que ce soit le capitalisme, que ce soit n'importe quel système. Hein, on a aujourd'hui dans le monde aussi le communisme, on a eu le fascisme, on a eu dans le passé des théocraties, et il y en a de même aujourd'hui, ils existent encore. Mais le gouvernement de Dieu sera complètement différent. Donc, Jésus nous donne ce promesse, « Je reviendrai ». Est-ce que nous avons une vision claire de qui reviendra et de qui l'attendra son retour, qui attendra son retour, de qui sont les saints de l'Éternel? Et en même temps, est-ce que nous avons une vision du royaume qui sera instauré ici-bas? C'est bien sûr pendant la fête des tabernacles que nous allons revoir beaucoup de versets, beaucoup d'exemples de jusqu'à quel point le monde sera changé sous le gouvernement de Jésus-Christ. C'est incroyable, c'est incroyable, miraculeux les changements qui vont avoir lieu. Et donc, vers la fin de la prophétie du Mont des Oliviers, Jésus a dit ceci. Qu'est-ce que nous faisons en attendant, en se préparant? Nous allons veiller, nous allons prier et nous allons considérer cet avertissement vers la fin de Matthieu 24. Matthieu 24, vers la fin de cette prophétie. Matthieu 24 et le verset 32. Matthieu 24 et le verset 32. Considérant ceci comme un avertissement, d'être toujours prêt, d'être en train d'analyser, de considérer, de prier, de demander à Dieu son aide à comprendre les choses qui se passent dans ce monde, pour relier les points ensemble, pour comprendre jusqu'à quel point nous sommes tellement près du retour de Jésus-Christ, de ces derniers jours. Et donc, verset 32, Matthieu chapitre 24 et le verset 32, Jésus dit ceci, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Ah, il va comparer quelque chose au figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Donc, il y a un certain changement au niveau de cet arbre-là, ce figuier, qui indique que les saisons vont changer, que l'été est proche, que le printemps a sa fin. De même, il continue, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ceci veut dire que nous devons observer, et si nous sommes en train d'observer ces choses avec, bien sûr, les autres choses en place, la vision claire de ce qui, de qui est Jésus-Christ, pour comprendre qui il est, et aussi, bien sûr, la vision claire de notre responsabilité en tant que saints de l'Éternel. Et puis, bien sûr, nous allons analyser les grands changements qui devraient avoir lieu au retour de Christ pour comprendre jusqu'à quel point ce monde souffre et jusqu'à quel point Dieu nous aime tous pour donner ses promesses de changement d'un monde meilleur pour toute l'humanité. Alors, si nous gardons ces choses en tête et si nous les mettons en pratique, et en même temps, si nous analysons, si nous veillons sur les changements qui se passent autour de nous, nous allons observer que le retour de Christ est à la porte. Le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Et est très intéressant que aucune parole va passer de côté. Tout ce qu'il nous a donné est important. Toute cette Bible est importante à étudier, à comprendre. Donc, nous pouvons passer toute notre vie et nous changeons. Notre vie passe de chapitre en chapitre, si vous voulez. Et notre perspective change petit à petit des fois. Et la parole de Dieu ne change pas. Par contre, la parole de Dieu nous change. La parole de Dieu nous prépare pour le royaume de Dieu à venir. Donc, même si nous ne comprenons pas l'heure exacte de son retour, même si ça reste, comme Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, une sorte de mystère dans certains aspects, alors gardons une vision claire de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Il nous révèle pas mal de choses, donc gardons une vision claire de ce qu'il nous révèle, puis veillons et prions. Et surtout, prions que ton règne vienne.